bozela te ba koma na bokono pola ki salula ngona yo
kozela te ba wa
sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye
chimukuna na likola be
oye oye ye
nina nga nesio toni na
ayo
umisolange fami na lingi bino chimukuna na likola be
Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les titres. Le président de l'Assemblée nationale invite les parlementaires africains à œuvrer pour le développement de l'Afrique au cours des assises de l'Union parlementaire africaine. Plus des détails dans ce journal. En sport, 5000 jeunes bénéficieront d'une formation au métier des sports pendant 6 mois, ce à partir du 13 décembre prochain. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et hors de nos frontières, en France, loi immigration, les députés votent la motion de rejet. Nous démarrons avec l'ouverture des assises de l'Union parlementaire africaine, UPA, ce lundi. C'était en présence de parlementaires venus de toute l'Afrique et du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui a invité ses pairs à œuvrer pour le développement de l'Afrique. On écoute à cet effet Adama Bictogo.
Les mutations politiques intervenues dans le monde au cours de ces 10 dernières années, à savoir les conflits en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, éprouvent considérablement nos économies en engendrant en outre des crises alimentaires et énergétiques, l'inflation sur les prix des biens de première nécessité. Pour y faire face, il nous faut agir ensemble à travers une plus grande solidarité et par la mutualisation de nos efforts. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'Union africaine depuis janvier 2002 par l'érection de la solidarité comme valeur essentielle de l'intégration. L'Afrique unie et solidaire est un gage de prospérité, de développement pour nos peuples et nos États. C'est pourquoi je nous invite à une union et à une solidarité. Je me réjouis de ce que notre union y soit favorable et en fasse la promotion, comme l'atteste les thématiques de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine qui s'ouvrira le 14 décembre prochain et qui portera sur les enjeux de la zone de libre-échange économique continentale ainsi que sur le terrorisme et la violence. Honorables parlementaires, chers collègues, il ne peut avoir de développement sans stabilité politique. C'est pourquoi il nous faut restaurer la paix et la stabilité au sein de nos États. Il s'agit d'exigences que nous devons traiter avec diligence.
Les propos d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, recueillis par Junior Cardin. Intéressons-nous à présent à la promotion des droits de l'homme, direction la place Figayo de Yopougon, où a eu lieu la célébration officielle de la Journée internationale des droits de l'homme samedi dernier. Placée sous le thème « Dignité, liberté et justice pour tous », des consultations juridiques et une parade des ONG ont meublé cette journée. Plus des détails avec Jean-Claude Mabéa.
Cette célébration est toute particulière, selon Namizata Sangaré, la présidente du CNDH.
La célébration de cette année coïncide avec le 5e anniversaire du Conseil national des droits de l'homme. Cette célébration coïncide avec le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette célébration coïncide avec le 30e anniversaire de l'adoption des principes relatifs au statut des institutions nationales des droits de l'homme. Et cet anniversaire coïncide avec le 40e anniversaire de l'adoption l'adoption par les Nations Unies de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains.
L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro, a rappelé l'intérêt que son institution accorde aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Dans le contexte ivoirien, notre solidarité et notre soutien continuent d'aller aux acteurs de la société civile, aux défenseurs de droits de l'homme, à ceux qui se battent contre les discriminations, ainsi qu'aux institutions chargées de leur promotion, comme le CNDH que nous appuyons très fièrement.
Et le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, président de cette édition, Mélès Essis, a lancé cet appel aux populations.
Le dispositif légal ivoirien a été enrichi en 2021 d'une nouvelle loi prévoyant des mesures de protection au profit des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques. J'invite tous les Ivoiriens à éprouver cette loi en se rapprochant des services de la justice en cas de survenance de l'une des hypothèses qui vient d'être évoquée.
La visite des stands a mis un terme à cette célébration.
Tournons-nous à présent vers la vie des partis politiques. Élection à la présidence du PDCI. Tidiane Thiam a lancé officiellement sa campagne samedi dernier à Yamoussoukro, tout en appelant à l'unité des militants. Écoutons à ce propos un extrait de sa déclaration.
Chers militants du PDCI-RDA, c'est avec humilité et habité par un profond sentiment de devoir envers notre grand parti, le PDCI-RDA, que je me présente devant vous en tant que candidat à la présidence de notre parti, mû par la volonté de vous servir. Nous pouvons tous ensemble assurer que notre parti soit à la fois dynamique et ambitieux par ses objectifs. Et comme tous bons héritiers, c'est ce bien que nous devons faire fructifier, amplifier et développer. Aujourd'hui, après la perte brutale de notre leader, feu le président Henri Konan-Bédié, nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle. Je crois fermement en la nécessité de toujours renforcer l'unité au sein du PDCI-RDA. Une unité qui transcende nos différences et qui nous permet de travailler tous ensemble pour le bien de notre communauté. Je voudrais saluer l'exemple donné par le vice-président Noël Akossi-Bendjo, qui a su indiquer la voie de l'unité, de la cohésion. Jamais on peut s'élever dans la vie en abaissant quelqu'un d'autre. Donc, je voudrais, dans un esprit d'unité et de cohésion pour le parti, lancer un appel solennel à mon aîné, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikawe, qui a tant fait pour notre parti, pour lui exprimer ma volonté de le voir rejoindre nos rangs, dans cette bataille où il a certainement un rôle important à jouer.
Vous écoutiez à l'instant Tidiane Thiam, candidat à la présidence du PDCI-RDA, dans des propos recueillis par Émile Yaou. Et du côté de la jeunesse politique au RHDP, Mamadou Koné est élu président de l'Union des jeunes du RHDP. Avec 427 voix, soit 46,87% des suffrages exprimés, il devance son challenger Philippe Kragbé. Mamadou Koné a par ailleurs appelé à l'issue du scrutin toute la jeunesse du parti à rester mobilisée pour relever les défis à venir, notamment l'élection présidentielle de 2025. Nous l'écoutons au micro de Mata Touré.
Chacun d'entre nous a un rôle fondamental à jouer. Orateur ou tribun, baroudeur, stratège, nous avons tous des talents qui sont précieux pour notre cause commune. Inspirons-nous de notre mentor, son excellence Alassane Ouattara. C'est cette vision inclusive que nous devons porter haut et fort pour construire un avenir prometteur pour notre jeunesse et notre nation. Ensemble, unis par nos valeurs communes, par notre dévouement et notre engagement, nous pouvons être cette jeunesse dynamique, engagée et solidaire que la direction de notre parti appelle de tous ses voeux. Pour préparer de manière efficiente l'échéance cruciale de 2025, nous tracerons les sillons pour une redynamisation des organes de la jeunesse de notre parti. Nous entamerons un vaste programme de formation politique afin d'outiller les jeunes leaders politiques du parti sur les enjeux nationaux et internationaux à venir. Nous parlerons sur le terrain parce que c'est là qu'on nous attend. À ce stade de mon propos, je vais rendre un vibrant hommage à tous nos anciens pour le combat dont nous sommes héritiers aujourd'hui.
À présent, parlons sport. Pendant 6 mois, 5000 jeunes bénéficieront d'une formation au métier des sports, ce à partir du 13 décembre prochain, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme jeune du gouvernement. Les détails avec Mata Touré.
Il s'agit d'un projet de formation qui prendra en charge 5000 jeunes qui seront formés au métier des sports pour pouvoir assurer la gestion de l'héritage des infrastructures de la CAN. Le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, Silas Adjemetch.
Il s'agit de former une main-d'œuvre ivoirienne à mettre à la disposition des infrastructures sportives pour la CAN afin d'assurer la gestion et la maintenance pendant et après la CAN. Il s'agit également de donner de l'emploi à un grand nombre de jeunes et de personnes évoluant dans ce secteur.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a donné quelques détails sur ce projet.
Dire que ces formations seront sanctionnées par un diplôme délivré par le ministère de l'Enseignement Technique, il s'agit du certificat de qualification professionnelle. La conférence de ce jour vise à annoncer officiellement la publication de la liste donc des 5000 bénéficiaires. Et cette liste sera disponible sur les différents sites des trois ministères concernés et des structures opérationnelles, parties prenantes donc à ce projet. Nous sommes heureux aussi d'annoncer que nos structures techniques ont pris toutes les dispositions pour que les formations commencent effectivement le 13 décembre 2023.
La durée moyenne de la formation est de 2 mois de formation théorique et de 4 mois pour la formation pratique au sein des entreprises. 61 structures de formation ont été retenues, des formations qui seront sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle et qui se dérouleront dans 26 localités et sur le territoire national.
Et la formation concerne aussi les agents de la douane. À Korogo, une quarantaine d'agents ont été sensibilisés sur la mise en œuvre d'un mécanisme de décision anticipée. Objectif, améliorer la prévisibilité et la transparence des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Marcel Bonny.
La décision anticipée est une décision écrite et contraignante. L'on en sait un peu plus sur son contenu avec le colonel Bassi Balojan, chef du service du tarif à la direction de la réglementation et du contentieux.
L'opérateur économique peut avoir des difficultés à classer un produit ou bien à déterminer l'origine de ce produit. Et dans ce cas, il saisit l'administration des douanes. Et l'administration des douanes lui donne une décision et le lit. On lui dit désormais ta marchandise, elle doit être classée à telle position.
Depuis juin 2022, l'agence allemande de coopération international GIZ apporte son soutien aux douanes ivoiriennes dans la mise en œuvre de ce mécanisme de décision anticipée. Idriss Koné, coordonnateur de projet à la GIZ, explique.
Il s'agit de fournir de l'assistance technique aux douanes ivoiriennes pour mettre en place le cadre légal, donc à travers la préparation d'un arrêté, mais aussi de mettre en place le cadre réglementaire, le cadre procédural et le cadre digital permettant la mise en œuvre effective du mécanisme de décision anticipée.
Un mécanisme dont les avantages ressortent de ce propos du colonel Kamagati Idriss, sous-directeur des opérations de dédouanement à la direction régionale des douanes de Korogo.
Cet outil nous permettra d'être désormais dans l'efficacité, la facilitation des procédures et surtout la célérité des opérations de dédouanement.
Retenons qu'après Abidjan et Korogo, d'autres séances de sensibilisation sont prévues sur l'ensemble du territoire. Marcel Bonnet, Korogo, Radio de la Paix.
Et nous partons à présent pour la ville de Dubaï, où la COP28 tire à sa fin. C'est presque l'heure du bilan pour la Côte d'Ivoire, qui capitalise déjà des acquis. Le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré, a tenu un point presse au pavillon de la Côte d'Ivoire, à Expo City Dubaï, samedi 9 décembre, suivant le compte-rendu de Ghislain Koulibaly.
295 personnes font partie de la délégation ivoirienne à cette COP28. Membres du gouvernement, présidents d'institutions, sociétés civiles, secteurs privés, des parties prenantes qui ont réalisé plusieurs activités, audiences de haut niveau et même des partenariats très fructueux. Jacques Assaoré, ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.
Le pays est partie prenante de l'initiative SAFE pour un montant de 10 milliards de dollars. Il y a eu la signature d'un plaidoyer pour le financement de l'éducation environnementale et climatique en Afrique de l'Ouest pour permettre aux générations futures de s'approprier ce débat et ce combat. Le groupe CJR du Portugal a donné son accord pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa transition énergétique.
À l'heure où les énergies renouvelables sont présentées par les scientifiques comme une solution face au réchauffement climatique, cette coopération avec le Portugal est une aubaine, nous dit Dr Aboua Gustave, directeur général du développement durable.
Vous savez, le Portugal est un pays qui a fortement développé les énergies renouvelables. Plein de structures portugaises qui sont en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de l'énergie solaire. Et donc ce partenariat signé, cette convention signée avec la Côte d'Ivoire va permettre d'accroître la présence du Portugal dans la transition énergétique et également le transfert de technologie.
La délégation ivoirienne comprend également des négociateurs qui font des contributions sur plusieurs thématiques liées au changement climatique. Ghislain Koulibaly, Dubaï, Radio de la Paix.
Et un tout autre sujet dans ce journal, dans le cadre de la sécurité sanitaire, une évaluation externe conjointe de la mise en œuvre des capacités du règlement sanitaire international RSI 2005 s'est tenue du 4 au 8 décembre dans la commune de Cocody. Tenue tous les 5 ans pour préparer les pays à répondre aux urgences de santé publique, écoutons Dr Aloïs Diouf sur les objectifs de la mission.
L'exercice entre en droite ligne dans l'appui que l'OMS apporte aux pays pour les aider à se préparer, pour les aider à prévenir, à détecter et à pouvoir riposter face aux épidémies. Et aujourd'hui, les pays, l'OMS en particulier, aide les pays à pouvoir réviser, évaluer leurs capacités. La première étape, ça a été l'auto-évaluation. Le pays et les experts nationaux ont fait leur évaluation. Et aujourd'hui, c'est une équipe des évaluateurs externes de l'OMS qui vient pour faire l'évaluation du travail fait par le pays. Identifier les points forts, parce qu'il y a 19 domaines techniques à évaluer, et nous allons pour chaque domaine technique regarder les points forts. Nous allons voir les bonnes pratiques, parce qu'il est évident qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi identifier avec l'équipe du pays les défis. C'est à partir de ces défis que nous allons construire des actions prioritaires, parce que les défis peuvent engager plusieurs actions, mais l'idée c'est vraiment de prioriser ces actions. Donc le résultat attendu c'est de pouvoir identifier les défis, les bonnes pratiques, mais surtout de pouvoir définir de manière collégiale avec le pays en tenant compte des preuves que nous avons sur le papier et des preuves que nous avons sur le terrain, parce que nous allons aussi descendre sur le terrain, de pouvoir appuyer le pays pour identifier les 3 à 5 actions prioritaires pour chaque domaine.
Les propos de Dr Aloïs Diouf, responsable de l'équipe d'évaluateurs de l'Action mondiale de la santé, recueillis par Paul-Bénédicte Boulou. Et nous ouvrons le chapitre international avec la loi immigration rejetée par les députés français. C'est un véritable camouflet pour le gouvernement. L'Assemblée nationale a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. La motion était défendue par le groupe écologiste. Son adoption par l'Assemblée entraîne l'interruption de l'examen du texte avant même que ne soient abordés les articles au fond. Et plus près de chez nous, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a officiellement clos ce lundi 10 ans de déploiement dans le pays après avoir été poussée vers la sortie par la junte au pouvoir. La MINUSMA a descendu le drapeau des Nations Unies sur son quartier général, a indiqué sa porte-parole Fatoumata Kaba. La fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité de l'État, nous rapporte l'AFP. Et c'est la fin de ce journal. À présent, le rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale invite les parlementaires africains à œuvrer pour le développement de l'Afrique au cours des assises de l'Union parlementaire africaine. En sport, 5000 jeunes bénéficieront d'une formation au métier des sports pendant 6 mois, ce à partir du 13 décembre prochain. Et hors de nos frontières en France, loi immigration, les députés votent la motion de rejet. Juste après ce journal, retrouvez votre magazine Economia avec Jean-Claude Comé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio de la Paix.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Ce rendez-vous de l'actualité économique sur Radio de la Paix, vous le connaissez, c'est Economia, avec ses différentes rubriques, le lexique économique, regard sur la gestion de l'économie et les tendances de la bourse. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous sur la fréquence de la paix.
Le lexique économique. Le lexique économique.
l'inflation.
L'inflation, c'est lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Avec le temps, chaque franc CFA permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation diminue progressivement la valeur de la monnaie. On détermine généralement trois types d'inflation. Il s'agit d'inflation rampante en dessous généralement de 10%, d'inflation galopante à partir de 10% et d'hyperinflation dans les cas de croissance extrême du taux d'inflation.
L'inflation sous-jacente.
Et puis l'inflation sous-jacente, pour avoir une meilleure lecture donc de l'inflation et une idée plus précise de la situation économique d'un pays, sont les perturbations occasionnelles, notamment les facteurs climatiques, les marchés mondiaux. Il convient de calculer l'inflation sous-jacente, celle dont le calcul exclut certains biens qui ont des prix très volatiles. Il peut s'agir par exemple d'énergie, aussi de l'alimentation.
Sur la gestion économique nationale.
Voilà, mes auditeurs, un autre sujet pour vous, c'est la suite de notre découverte du taux d'inflation sous-jacente. Voilà, M. Odonzon nous explique un peu ce taux donc, d'inflation sous-jacente. M. Fossé-Odonzon, bonjour.
Bonjour, M. Koumé.
Le taux d'inflation sous-jacente, on en parle depuis la semaine passée, c'est quoi, pour rappel?
Mais on avait dit la semaine passée que c'était un indicateur de référence, hein, surtout pour les banques. Et que si ce taux est beaucoup surveillé, c'est parce qu'il est jugé représentatif, hein, par rapport à l'inflation vue d'une manière globale. Et puis c'est un taux qui exclut tout ce qui est prix volatile dans le calcul de l'inflation. Des prix volatiles qui concernent l'énergie par exemple et l'alimentation. Et il permet aussi de dégager une tendance de fond en ce qui concerne l'évolution des prix. Et c'est ce taux d'inflation sous-jacente qui dicte, hein, au risque de me répéter, la politique monétaire de certaines banques centrales. Et parce qu'elle ne tient pas vraiment compte des perturbations liées à la conjoncture qui généralement peut durer quelques semaines ou quelques mois.
Alors, mais justement, hein, de votre constat, vous l'avez dit, hein, certains pays en font donc leur politique économique, hein, nettement les pays européens que vous avez cités. Justement, pourquoi le choix de ce calcul particulier?
Oui, le choix de ce calcul particulier, parce que c'est un calcul qui est beaucoup plus réaliste. Il est beaucoup plus réaliste, et je l'ai dit tout à l'heure, il permet par exemple aux banques centrales de gérer au mieux tout ce qui est politique, et même la pratique monétaire. Voilà, et donc c'est à partir de ce taux qu'on peut effectivement développer une bonne politique économique et financière, ne serait-ce que dans le cadre de la gestion des pratiques monétaires.
Alors justement, est-ce que du côté africain, c'est une approche qui intéresse de plus en plus? Pour parler du cas ivoirien, est-ce que ce type de calcul rentre dans votre manière de travailler, vous économiste?
Ah oui, on fait très souvent faire de plus en plus d'études, hein, et qui sont consacrés à l'inflation non seulement globale et mais aussi sous-jacente en ce qui concerne les pays africains, et on essaie de faire des comparaisons. Et ce sont ces comparaisons qui nous permettent de dire que nos pays africains devraient s'intéresser aussi beaucoup plus aux inflations sous-jacentes, même si l'inflation globale prend le pas sur l'inflation sous-jacente. Mmh. On devrait faire de plus en plus d'analyses et puis voir dans quelle mesure on peut mettre sur pied des politiques économiques et financières axées sur la gestion de nos économies, bien sûr, par rapport aux indicateurs qui relèvent de l'inflation sous-jacente.
Oui, bon, de vrai, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas dans les habitudes de beaucoup de pays, c'est cela. C'est le constat que vous faites?
Oh, oui, et actuellement, on applique des politiques qu'on applique généralement.